Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello légende, on vous propose une série de 3 épisodes un peu plus courts avec Johan, le fondateur de Tennis Légende alias l'homme de l'ombre. Cette première est avec Cédric Pioline, lors du Rolex Paris Masters, le directeur du tournoi et ex numéro 1 français, et le seul tricolore à ce jour à avoir joué 2 finales de Grand Chelem. Il revient pour nous sur quelques moments clés de sa carrière et je crois que je peux laisser le micro à Johan plus souvent dans l'année. Les deux ont visiblement passé un bon moment. Mettez-nous un like dès maintenant sur YouTube, ça sera fait. Et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Let's go avec la piole, bonne découverte et bonne écoute à tous.
Je voulais faire un petit retour de quelques années en arrière avec toi pour parler de tes souvenirs de ta carrière. Ça changera des questions sur l'organisation. Ouais. Bon, déjà, question assez simple pour commencer. Quel est ton meilleur souvenir au Rolex Paris Master?
Mon meilleur souvenir, en fait, c'est un souvenir qui est finalement pas de jeu, mais qui est l'endroit où j'ai arrêté ma carrière, en fait. Et avec ce parcours pour accéder à la finale avec Querten en tant que partenaire, et puis un truc qui n'était pas prémédité du tout, où je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'heure et tout ça, et puis finalement, je me dis, là, bon, l'endroit, le truc, c'est génial parce que j'avais un peu coulé en simple. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 32, 33, je suis plus dans les tableaux. Enfin, voilà, jouer des challengers, ça a moins de signification. Enfin, voilà. Donc finalement, c'est un super souvenir de me dire que aujourd'hui, d'un côté, je suis directeur du tournoi où moi-même j'ai arrêté ma carrière, quoi.
T'avais pas choisi, t'as décidé sur un coup de tête, enfin, pas sur un coup de tête, mais...
Bah, en fait, le contexte de l'époque, c'est que c'était en 2002, et en 2002, on était en finale donc, de la Coupe Davis. C'était les Russes en finale, d'ailleurs, dans la salle. Et je me battais pour me dire, alors je savais qu'en simple, j'étais mort, mais que, pourquoi pas en double, comme l'année précédente, 2001, qu'on avait gagné, la Coupe Davis contre l'Australie. Et puis quand j'ai compris... Que je ne serais pas concerné. C'est là où je me suis un peu posé en disant, bon, où est-ce que j'en suis? Donc, 2002, j'ai 33 ans, qui était tard à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins tard, mais c'était tard à l'époque. Et puis, voilà, quoi, c'est venu assez naturellement en se disant, bon, les efforts pour revenir, pour regagner le classement, le truc. Je vais avoir donc 34, 35. Qu'est-ce que le temps de revenir, c'est pratiquement une année, et donc ça me pousse à 34. Tu vois, enfin pour aller où, quoi, tu vois, il y avait plus de chemin, en fait.
Et le public, il était au courant ou enfin il s'est passé quelque chose pour ta fin de carrière ou...
Bah en fait, non, pas vraiment, si ce n'est que le lors du discours là donc de la finale. Je sais pas comment ce que j'ai dit et quoi, mais les gens ont senti.
Okay.
Et on commençait à dire ah non, reste encore truc, et puis ils ont senti, et puis c'est là où moi j'ai annoncé que voilà, que c'était le moment pour moi d'arrêter, mais donc c'était pas organisé, en fait.
À l'inverse, quel est ton plus mauvais souvenir à Bercy?
Mon plus mauvais souvenir, j'ai eu 2 matchs de mémoire, un contre Rafter et un contre Chang, où j'ai eu balle de match les 2 fois, donc pour avancer dans le tableau, puis contre quand même des joueurs donc de l'époque qui étaient top, donc c'est pas des bons souvenirs parce que en fait. D'une manière plus globale, en fait, j'ai jamais réussi à... Mon meilleur résultat, c'est quart de finale. Et j'ai jamais réussi à bien jouer alors que c'était indoor, une surface qui me convenait. Enfin, il y avait plus ou moins un peu les éléments où j'avais bien joué dans plein de conditions similaires. J'ai jamais réussi à bien jouer ici, donc ça, c'est un regret pour moi.
Il y a le fameux épisode, évidemment, avec Kafelnikov, où tu pars en faisant un bras d'honneur. Est-ce que tu peux rappeler pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément cette histoire, qu'est-ce qui s'était passé pendant la rencontre ?
Ouais, c'était un contexte particulier. C'est vrai qu'il y avait eu un petit groupe de spectateurs qui, en fait, avait vraiment fait tourner le match. Parce que, en fait, je pense que ce n'étaient pas des fans de tennis et qui étaient là pour perturber. Et en fait, la salle, pour ceux qui sont déjà venus quand on la voit à la télé, en fait, c'est un noir sale, en fait. Et les tribunes, surtout le haut, on voit pas, on sait pas, et on sait pas, on lève la tête, mais on voit du noir, quoi. Et donc, ça a fait tourner le match, et c'est vrai que c'était décevant pour moi, quoi. Décevant de se dire, on est en France, et finalement, je n'avais pas la prétention de penser que tout le monde pouvait être fan de Pioline ou m'aimer en tant que joueur. Mais de là à aller dans l'excès inverse, d'arriver à faire tourner un match en France sur ce type de comportement, j'avais trouvé ça too much, quoi.
Il a pendant longtemps eu la réputation d'être un public assez dur, parfois impitoyable, comme tu l'as dit. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas ou ça s'est calmé ?
Je pense que ça s'est lissé dans le temps, que ça s'est beaucoup calmé, même si c'est toujours un public qui est très chaud, mais beaucoup plus porté sur justement le sport, quoi. Le sport avec... très réactif au chaud qu'ils voient, quoi. Et plus le chaud est bon, plus ils sont chauds. Chaud. deux orthographes différents. Ça s'est un petit peu lissé, mais on est quand même sur quelque chose quand même toujours de très très réactif. Et puis l'indoor accentue aussi l'effet, hein, sa caisse de résonance. Plus.
T'es le seul joueur français à avoir fait deux finales de Grand Chelem dans l'Air Open. Est-ce que Pete Sampras lui en veut un peu d'avoir été...
Souvent, quand on reprend l'histoire du tennis qu'on connaît, il y a souvent eu, pendant certaines périodes, des dominants. Moi, mon dominant, c'était Sampras, comme... Federer a été le dominant et Roddick d'ailleurs l'a déclaré en disant s'il n'y avait pas eu Federer, j'aurais un palmarès bien plus riche avec probablement d'autres titres du Grand Chelem. Et peut-être que moi, même si j'avais pas eu Sampras, j'aurais au moins un tournoi du Grand Chelem à mon palmarès. C'est sûr que il était, comment dire, un peu injouable, quoi. C'est celui qui gagnait le plus, quoi. Donc moi, j'ai jamais vraiment... Il m'a toujours posé d'énormes problèmes. Les deux fois en finale, c'était lui. C'est vrai que c'est pas... C'est... D'un côté, évidemment, c'est un souvenir incroyable quand tu te dis... voilà, on part à plat à 128 et on arrive... il en reste deux et puis tu fais partie de ces deux-là. C'est hyper gratifiant. Et en fait, tu te dis, mais je suis tellement... proche, quoi, que quel dommage aussi, quoi. Donc il y a, c'est un mélange, quoi, c'est un mélange, mais c'est quand même ce sont deux aventures qui sont incroyables, quoi.
25 ans après, enfin entre 20 et 30 ans après, est-ce que ça t'arrive à faire de repenser à ces finales ou c'est totalement du passé?
Très rarement, je vais pas dire jamais, mais très rarement. Alors soit il y a un élément déclencheur comme là, on en parle et on se replonge, mais de moi-même, c'est quand même extrêmement rare. Ou alors parce que je suis amené à aller sur site, quoi, à l'US Open, à Wimbledon. Et donc d'un coup,
t'as des flashbacks,
t'as des trucs qui reviennent en disant, bon, un, déjà, qu'est-ce que les stades ont changé déjà. Ça, c'est quand même l'évolution sur 25 ans, elle est spectaculaire. Et puis ouais, de se dire, tiens, ouais, quand même, j'ai performé ici, quoi, c'est pas mal, quoi.
Donc, tu te souviens des petites sensations quand même ou
Moi,
ça disparaît.
Ça a tendance quand même. Je vais être honnête, chaque année qui passe, ça baisse, quoi.
Rien à voir, mais moi j'adore ce moment. T'es réputé pour avoir fait une analyse la plus folle en 96 contre Rios, où tu sors à la fin du match et tu dis je l'ai fait voler en éclats. Et sûr, je pense qu'on en a reparlé plein de fois après.
Ouais, c'est resté, c'est marrant. Ouais.
Comment c'est venu cette analyse? Enfin, c'était à chaud comme
c'est
ça venu, ou...
C'est qu'en fait, j'imagine que dans toutes les générations et tout ça, il y a toujours des joueurs qui sont plus ou moins sympathiques. Et Rio, c'était pas. Alors souvent, c'est par, c'est même pas par, pas forcément d'ailleurs par pays, mais par langue en fait. Un peu les Hispaniques ensemble, les Anglo-Saxons. Les Français, donc avec, je sais pas, les Belges ou tout ça, et puis, enfin, voilà. Et donc, même avec les Hispaniques, Rios, les autres, ils disaient, bref, il était pas, c'était pas le plus sympathique. Et c'est vrai qu'il avait ce côté, cette arrogance qui faisait que t'avais envie de, on est toujours motivé, évidemment, quand on rentre sur un cours, mais ce surplus de motivation et il s'est trouvé que j'avais fait un gros match pour le battre alors qu'il était dans les 5 premiers, j'imagine. Où ça avait été même à sens unique, d'ailleurs, plutôt si je me souviens bien. Alors je sais plus le score, mais enfin, je me souviens que je l'avais quand même bien dominé. Et donc j'ai eu ce truc qui est sorti, je ne sais pas de nulle part, sur l'adrénaline à la fin du match, puisque c'était une sortie de cours. Ouais. Donc vraiment, je sais pas. Très proche de la fin du match, donc où t'es en haut, quoi, tu vois, et puis centrale de Roland, je sais plus, je pense que c'était un huitième, donc peut-être pour aller en quart, je dirais ça.
Ouais, je crois que c'est ça.
Donc ouais, un peu sur... puis c'est sorti, quoi.
On t'en a reparlé dans le vestiaire après ou...
Ah ouais, mais même encore aujourd'hui, il y a des copains, même des jeunes générations qui ont été voir sur YouTube.
Bah, elle est géniale,
le truc. Pas... mais attends, mais t'as dit ça, mais c'est incroyable.
Bah, en fait, c'est jamais quasiment arrivé après. Enfin, une
analyse. Non, mais imaginons que ça se passerait aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
Ça serait.
Alors, je sais pas si ça deviendrait viral, mais ça serait amplifié, quoi. Alors que là, bon, c'était le contexte de l'époque avec. Les médias de l'époque, savoir l'interview télé, et puis en fait ensuite un peu de radio, et t'attendais le lendemain dans la presse écrite, quoi. Donc là, c'est plus le même modèle, quoi.
Là, si tu sors ça aujourd'hui, tout le monde va dire que t'as le boulard. Est-ce que tu penses avoir eu le boulard dans ta carrière?
Ah non, pas vraiment, non. Je pense pas que c'est quelque chose... je pense pas qu'on puisse me catégoriser de cela. Non, alors vraiment pas. Non, boulard, non. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui ça? Oui, probablement certaines personnes. Après, quand moi, par rapport à la personnalité que j'ai, je pense pas qu'on puisse me mettre là-dedans. Non.
Quel était ton meilleur ami sur le circuit à l'époque?
Ami, je sais pas si ça va jusque là, enfin il y avait plein, moi je m'entendais bien avec plein de gens, que ce soit des Français bien entendu, mais aussi en fait j'avais plein de les Espagnols, je me suis toujours bien entendu avec eux, du type les Bruguera, après il y a Moya qui est arrivé, qui est un peu plus jeune que moi, les Sud-Américains, je m'entendais bien, même Enman, Sud-Africain, Wayne Ferreira, je m'entendais très bien, Todd Martin, je m'entendais très bien. Donc moi j'avais, enfin, voilà, quand t'es quand même, je sais pas, 7-8 mois quand même sur la route, hein, c'est à peu près ça, c'est long. Donc si, puis selon les tournois évidemment, on participait pas forcément tous au même, à part les grands chelems et des mastermind, même si à l'époque ça s'appelait pas comme ça, et tu, voilà, vaut mieux avoir quand même des bonnes connexions avec certaines personnes, parce que sinon... sinon, c'est très long.
Qui était le genre le plus drôle d'investir à l'époque?
Drôle, ouais. Drôle.
Le déconneur.
Drôle, qu'est-ce qu'il y avait qui déconnait? Ouais, il y avait les Russes aussi. Hein. Les Russes qui étaient assez un peu ce petit côté foufou, quoi. Kafel, Marat, après, quand il arrivait, même s'il est plus jeune, mais... ça c'était un peu les, ouais, ça mettait de l'ambiance, ouais.
Dans le vestiaire?
Ah ouais.
C'est dans, t'as des petits exemples ou...
Exemple, non, ça remonte maintenant à un certain temps, mais Non, mais je sais pas, sur l'ambiance que ça pouvait mettre, l'atmosphère, le truc, c'est qu'en fait, quand tu es dans le vestiaire, en fait, tu fais que passer dans un vestiaire, quoi. Tu viens te changer, te doucher, tu poses tes affaires parce que tu as ton casier, tu prépares ton match ou tu sors de ton match. Donc, en fait, c'est que des lieux de passage, en fait. Et c'est vrai que quand tu sens qu'il y a une vibe, comme on dit, c'est plus agréable, quoi.
Est-ce qu'il y avait un joueur un peu réputé pour être fou?
Fou, 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 qu'est-ce qu'il y avait comme. Bah, il y en a un qui a montré un exemple, quand même, d'ailleurs, là-dessus, assez unique, d'ailleurs. Je pense que c'est jamais arrivé depuis. C'était Arango à l'époque, qui était un peu bizarre, quoi, un peu
Psycho.
excessif, un peu psycho, hein,
C'était son surnom, hein.
donc, ouais, je pense que c'est la bonne personne à citer, en tout cas, ouais.
Est-ce que tu te souviens du plus gros pétage de plomb de ta carrière? Est-ce que tu as un exemple en tête?
Plus gros pétage de plomb, je dirais que enfin, sur le cours, bah, de toute façon, le truc c'est de péter les plombs. Si tu pètes trop les plombs, tu sors du cours, hein, ce qui est d'ailleurs normal, hein, je pense que c'est une bonne chose. Mais non, après, c'est plus dans des entraînements ou à un moment justement parce que c'est. Et puis en plus l'image et l'exemple, si tu veux, je pense que même si, alors bon, vraiment j'ai vieilli, mais quand tu joues, t'es pas forcément tout le temps conscient de ça. Que ben, quand tu atteins un certain niveau, tu peux devenir l'idole de gens et surtout de jeunes. Et donc oui, t'as pas. C'est pas bien. Même si. Après, tu peux monter tellement haut dans l'adrénaline et dans l'enjeu et dans l'implication que tu as que, de temps en temps, moi ça m'est arrivé, pour le coup c'était, enfin, moi ça m'est, je pense, très rarement arrivé en match, mais à l'entraînement, à un moment, voilà, tu pètes une raquette, c'est con, mais ça fait du bien.
L'adversaire que tu préférais jouer.
Que je préférais jouer, oh, il y en avait quelques-uns, du genre j'avais des bons des joueurs contre qui j'avais un bon face à face, genre Krajicek qui était quand même un très bon joueur, Rosetsky,
Les gros serveurs, donc.
des gros serveurs, mais aussi je sais pas, genre Paul Harwis qui était un peu moins bien classé, mais quand même un très très bon joueur. Rafter aussi, Rafter, j'ai eu un très très bon ratio contre lui. Todd Martin, enfin ouais, de ce genre de joueurs,
Était
ouais.
bête noire.
Ben, Bête Noire était assez américain. Genre Sampras, Agassi, Chang, Becker, mais bon, en fait, là je cite des joueurs qui ont été quasiment tous numéro un mondial. Et qui, bah, par définition, gagnent plus que les autres. Donc voilà. Donc, et en règle générale, ils sont rarement négatifs dans les face-à-face, avec les autres, quoi.
Mais il y avait un joueur, par exemple, tu savais que tu allais l'affronter, tu te disais, ah merde, j'ai pas trop de solutions contre lui, ça va être compliqué, quoi. Cela.
Cela, ouais, bah oui, bah, c'est quand tu n'arrives pas à les battre, est-ce que tu n'arrives pas à trouver la solution ou est-ce que le type de jeu que tu proposes est en fait très favorable à leur type de jeu? Probablement aussi. Et donc, du coup, c'est quand même très compliqué de jouer contre nature, quoi. Et tu peux pas complètement changer ton jeu parce que tu te perds, en fait. Tu sais plus, quoi. Hein, je vais pas attaquer parce que ça convient pas à l'autre, mais en fait, mon jeu, c'est d'attaquer. Enfin, moi, j'étais attaquant, donc ouais, non, c'est vrai qu'il y a un moment où c'est très désagréable parce que c'est quand même un jeu très psychologique. Et à un moment, tu sens quoi, tu le sens réellement que
L'emprise.
t'as pas de solution ou encore pire que tu as l'impression que le mec il sait avant toi où tu vas jouer quoi. Ça, c'est très désagréable.
Est-ce que tu as un souvenir d'un match où tu étais totalement dans la zone, où tu as joué quasi parfait? Ça n'existe pas, mais.
Oui, enfin, j'en ai eu plusieurs dans ma carrière, mais ouais, probablement notamment la demi-finale que j'ai jouée contre Stitch à l'US Open, beaucoup des matchs de ma fin de tournoi hors finale, mais à l'US Open, enfin, oui, et à l'inverse, c'est très agréable, quoi. En fait, c'est un truc de maso, c'est-à-dire que tu t'entraînes comme un chien pour vivre ces moments-là qui sont très éphémères. Et la masse d'entraînement que tu dois avaler pour arriver à ce niveau-là, elle est complètement incroyable, quoi. Déséquilibrée même.
Tu te le dis pas sur le court, quand tu es sur le terrain, tu te dis là il peut rien m'arriver ou ça t'arrive de ça t'est arrivé de penser à ça?
Non, enfin pas moi en tout cas, tu te le dis pas de cette manière-là, tu te le dis plutôt en fait, essaye de rester centré, comme on dit, concentré, centré, et de juste de dire, ça marche bien aujourd'hui, quoi. Mais justement, faut rester là-dedans, quoi. Faut pas se projeter, faut pas se projeter trop, hein. Parce que tu sors du truc, quoi. Donc, de rester, ouais, concentré, mais tu sens bien, et pour ça, c'est plus après match, où tu te dis, ouais, aujourd'hui, c'est incroyable, quoi. Tout a été pour moi, quoi. Les lignes, les bandes. Le vent, le truc, je sentais tout très bien, quoi.
Dernière question, et après on arrête parce que ça fait...
Ouais.
je crois qu'on a dépassé. Est-ce que tu as une anecdote un peu marrante que tu as en souvenir?
Une anecdote. Une anecdote,
Ça peut être une
j'en ai
idée.
une assez marrante qui est, enfin, que je trouve marrante, qui est que je pense que c'est quand j'ai. Je me suis qualifié pour les demi-finales de l'US Open, mais alors pour le coup en 99. Donc à l'US Open, il y a un énorme parking en fait qui est évidemment hors stade en fait collé, mais hors stade où il y a c'est plutôt un parking en fait c'est population joueurs et VIP tout ça à l'américaine tout ça. Et donc moi j'attends ma voiture qu'on commande, tu sais, t'as un desk et tout ça. Et donc là, je vois un truc à l'américaine, une stretch limo qui arrive, mais genre la stretch, là vraiment la version très longue, vite teintée et tout. Je dis, bon, je sais pas qui c'est, hein, je m'en fous quoi, tu vois. Et puis t'as le capot, et puis ça prend un peu de temps pour arriver jusqu'à la portière passager quoi, parce que c'est stretch quoi. Et puis ça, je vois que ça s'arrête à ma hauteur. Et donc ça c'est vraiment c'est une histoire vraie, hein, c'est
Ouais.
du vécu. Et donc la vitre descend. Et genre je suis là et c'est devant moi, donc c'est pour moi quoi. Bon, ok. Donc puis là je vois donc dans la voiture Lisa Minnelli et qui me dit oh, je viens juste de regarder ton match, c'est incroyable, super. Et qui me dit bah écoute. Est-ce que tu veux que je te dépose à Manhattan, quoi. Donc en anglais, c'est plus sympa, do you want a ride? Do you want a ride? Et donc, je fais why not? Et donc voilà, et donc Lisa Minnelli m'a amené à mon hôtel dans sa limo et m'a déposé, quoi. Donc c'était hyper cool, quoi, parce que c'est vraiment le genre de choses d'abord qui arrivent beaucoup aux États-Unis en fait parce qu'ils ont cette mentalité de facile même ils vont vers toi et tout qui arrive un peu moins en Europe au même titre que j'ai eu une fois à l'hôtel encore à New York tu vois l'hôtel dans lequel je restais et puis l'ascenseur je suis seul dans l'ascenseur il s'ouvre et donc il y a Syl qui rentre. Qui parle parfaitement français d'ailleurs, et qui fait Ah, bonjour monsieur Pioline, et tout. Et je le regarde, et je lui fais, mais vous me connaissez quoi, parce que, je sais plus quelle année c'était, tu vois, mais. Elle me dit, mais bien sûr, super, t'as joué 6, tac, enfin voilà.
Je crois que c'est un fan de tennis,
Ouais, c'est
ouais.
un fan de tennis, mais c'est marrant, quoi. Enfin voilà, les hasards de la vie, à travers les rencontres, à travers les. Enfin voilà, c'est sympa, quoi. Voilà, donc on a
Super.
eu deux même.
Parfait.
Les deux ont pris là.
Super, merci.
Bon, c'est là
Merci,
toute la
Loïc.
semaine?
Ouais. Bon, cool.
J'espère que ça vous a plu, les légendes. Si c'est le cas, mettez un like et un commentaire sympa, peu importe où vous écoutez. envoyer cet épisode avec la piole à un gars de cette époque, un vieux briscard qui appréciera et se remémorera les bonnes tranches en revers qui montent à 50 mètres de haut. Pense à récupérer gratuitement le guide de la raquette parfaite ainsi que 5 conseils pour un cordage optimisé, premier et second lien dans la description de l'épisode. Pour rappel, on aimerait développer à peu près le même concept sur le paddle en 2023. Si vous pensez à quelqu'un ou si vous êtes intéressé de bosser avec nous sur ce sujet très précis, envoyez-moi un mail à max@tennislegende.fr ou sur LinkedIn, Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta, Max Zamora, T-L, ou Tennis Legende Podcast. Voilà. Si là, vous n'arrivez pas à me joindre, je ne comprends pas, hein. On a tout donné. Les deux prochains courts épisodes avec Johan sont en anglais. Et je vous préviens que vous allez vous régaler. Vraiment, les invités sont hyper cool, hyper intéressants. Et sur ces belles paroles, à très vite les légendes et prenez soin de vous. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.